Bonsoir et deux acquisitions d'un seul coup aujourd'hui pour Total dans le domaine des énergies renouvelables. Total qui accélère sur ce segment. Alors il n'est pas le seul, hein, parmi les grandes majeures pétrolières, on voit aussi les grands énergéticiens qui passent à la vitesse supérieure. Alors même si au regard de la consommation énergétique mondiale, le segment est encore marginal, on bat des records d'installation. Alors est-ce que ça sera suffisant pour faciliter cette fameuse transition énergétique, pour réduire le réchauffement climatique? Est-ce qu'il faut croire aux renouvelables? Est-ce que soleil et vent triompheront du pétrole? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et vous savez qu'on vous a demandé, on vous a posé cette question sur Twitter cet après-midi sur le compte des décodeurs de l'écho. Croyez-vous aux énergies renouvelables? Alors là, la tendance, la réponse, là, au moment où on se parle, c'est 75% oui, 25% non. Alors, c'est pas un sondage scientifique, hein, aux critères des grands instituts sondages, mais voilà, ça donne peut-être une opinion. Allez, continuez justement d'alimenter le compte Twitter des décodeurs de l'écho. Vos remarques, vos réflexions, nos décodeurs de l'écho ce soir, il y a Xavier Caïtucoli à la tête de Direct Energy. C'est le PDG de Direct Energy. C'est le troisième fournisseur distributeur français d'électricité et de gaz. Avec nous, Alexandre Roche, délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Lui aussi est distributeur, fournisseur de scoop. Monsieur Mathieu Pechberti, grand reporter à BFM Business. Et puis Jean-Louis Butré, président de la Fédération Environnement Durable. Oui, du renouvelable, oui. Point, trop d'en faut, hein. Surtout pas d'éolien. Vous nous le direz dans un instant, Jean-Louis Butré. Alors, tiens, l'actualité, c'est pour ça qu'on a réagi, qu'on vous propose ce sujet des décodeurs de l'écho. C'est Total qui va prendre 23% de Eronray via une augmentation de capital d'un petit peu plus de 240 millions d'euros, plus l'acquisition, bon, plus modeste, hein, de Greenflex, active notamment dans l'efficacité énergétique. Mathieu Pechberti, c'est quoi Eronray?
Écoutez, c'est une société qui a été créée il y a quelques années, il y a 5 ans seulement, hein, et qui est opérateur d'éoliennes et de centrales solaires un peu partout dans le monde. Alors, pas beaucoup en France d'ailleurs, comme beaucoup de spécialistes. Et donc, ils exploitent tout simplement des éoliennes, des parcs éoliens et des parcs solaires un peu partout dans le monde. C'est une société qui est très jeune et qui est déjà a grandi assez vite, comme beaucoup de sociétés d'ailleurs dans le secteur ces dernières années.
Ouais, société créée par David Korchia et Paris Mouratoglou, des ex, hein, de EDF Énergie.
Oui, qui avait en fait déjà créé une société il y a 15 ans qu'ils avaient vendue à EDF, cher d'ailleurs, et qui aujourd'hui est la filiale énergie renouvelable d'EDF. Et donc là, ils ont fait un deuxième coup, le même, en créant une nouvelle société, en la vendant cette fois à Total.
Voilà, et à terme, ça sera une filiale complète donc de Total. En quoi c'est important pour Total? Patrick Pouyanné, il parle de 5 gigawatts de capacité de production sur 5 ans. Ça correspond à quoi, 5 gigawatts, Mathieu?
5 gigawatts, c'est vraiment pas grand-chose, hein. C'est l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires.
Voilà.
Donc à l'échelle de Total et du monde, c'est vraiment tout petit. Mais ce qui est important,
il y en a 58 en France, hein, voilà.
Exactement. Non, ce qui est intéressant, c'est que en fait, Total n'est plus un pétrolier comme on l'a encore dans notre imaginaire collectif depuis 20 ans. Hein. Total était déjà équilibré, on va dire, entre 50% de production pétrole et gaz. Alors vous allez me dire que c'est à peu près la même chose, certes, mais ça évolue quand même depuis 10 ans. Et puis, il y a une impulsion qui a été donnée par l'ancien PDG Christophe de Margerie, hein, décédé, qui voyait bien qu'il fallait que Total devienne ce qu'on appelle un énergéticien. En gros, il fallait fournir toutes les énergies possibles, voilà. Évidemment parce que le pétrole il y en a de moins en moins et qu'il devient de plus en plus cher, et puis aussi parce que l'électricité c'est vraiment l'énergie de demain. Donc aujourd'hui quand on parle d'électricité, c'est évidemment plus nucléaire, mais c'est l'énergie renouvelable, du solaire, de l'éolien, parce que ces énergies deviennent rentables alors qu'elles ne l'étaient pas il y a encore quelques années.
Vous avez raison, hein, Total qui élargit sa palette dans les énergies renouvelables, et d'ailleurs sous le règne de feu Christophe de Margerie, 2011, l'acquisition d'un fabricant de panneaux photovoltaïques américains, donc SunPower. Saft, spécialisé dans les batteries, donc là c'est l'autre côté, ça permet de stocker quelque part l'énergie produite, c'est intéressant, intelligent. Total Solar, filiale créée cette année dans le soleil. Des projets dans les biocarburants, notamment l'ancienne, le toujours site de la Maine, mais enfin en tout cas reconverti dans l'huile de palme. Et puis là, donc il fait son entrée sur le marché de l'éolien. C'est-à-dire qu'il couvre tout maintenant, Total. Hein. C'est une nouveauté, c'est l'éolien cette année. Hein.
Oui, complètement. Ils vont tout couvrir, encore une fois, le pétrole, le gaz et l'électricité, mais l'électricité renouvelable. Hein. À un moment donné, ils s'étaient posé la question d'entrer dans l'électricité nucléaire et puis ils ont vite abandonné. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une vision un petit peu globale D'abord parce qu'ils ont les moyens, c'est-à-dire de fournir de l'électricité, donc d'acheter des moyens de production, de la commercialiser, et puis aussi le stockage, parce que comme vous savez, le solaire et l'éolien sont des énergies donc intermittentes qui ne produisent pas systématiquement, donc que quand il y a du vent ou du soleil. Donc l'idée, c'est de les coupler avec du stockage pour permettre une production, en tout cas de pouvoir les consommer de manière constante, mais le stockage, là, pour le coup, ça va être le dernier pilier. Ça va être encore quelques années avant
encore
vraiment d'émerger.
Au développement des énergies renouvelables. Tiens, question à tous. Justement, on a vu que les grands énergéticiens accélèrent. Vous nous parlerez de vous aussi, Direct Energy, parce que c'est aussi l'actualité de cet été. Justement, vous mettez un pied dans les renouvelables aussi. Total, quelque part, en faisant ce coup, là, il vient sur le terrain d'EDF, il vient sur le terrain de Engie également, à votre avis. Il vient les défier, clairement. Allez, Xavier Caetucoli pour démarrer.
Oui, je crois que Total vient en quelque sorte hedger ou couvrir sa position dans le pétrole. La transition énergétique, un mot qui est devenu très galvaudé. On y a mis beaucoup de choses, c'est devenu un mot valise. La transition énergétique, la réalité de ce que c'est un transfert des énergies fossiles vers l'électricité qui peut être produite à partir de sources renouvelables. Et donc, il va y avoir massivement des transferts de consommation d'énergie fossile vers de l'électricité, notamment pour la mobilité. Et donc, Total, en fait, se couvre contre ce mouvement durable sur sa matière première habituelle. Et donc, c'est ça un petit peu. Après, pour des acteurs tels que nous, Direct Energy, tels que EDF ou Kenji, l'histoire est un petit peu différente. Nos motivations sont un petit peu différentes. Direct Energy, pour citer cet exemple, on livre 2 millions, un petit peu plus de 2 millions de clients en France, 2 500 000 clients en électricité. On a besoin, pour leur garantir dans la durée qu'ils seront approvisionnés de manière compétitive, d'avoir un mix de production qui soit diversifié. Et donc, on a besoin d'énergie renouvelable. C'est pour ça qu'on a fait cet investissement significatif cette année. On a besoin, pour compenser l'intermittence dont parlait Mathieu Pechberthier à l'instant, de moyens de production flexibles en attendant que les batteries soient disponibles. Donc on investit dans des centrales au gaz et c'est cette diversité que recherchent les grands énergéticiens. Donc je ne pense pas que Total vienne vraiment concurrencer ou se battre contre DFNJ, il vient surtout transformer son business model parce que la transition énergétique lui impose.
Oui, Alexandre Rush, délégué général du syndicat des énergies renouvelables.
Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que ça fait partie, comme vous l'avez décrit, d'une stratégie que Total a mis en place de diversification. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est aussi de voir où sont les actifs des REN qu'ils ont achetés, qui sont essentiellement à l'étranger. Donc je pense que ça correspond, pour répondre à votre question, pas forcément à une stratégie de concurrence sur le territoire français par rapport aux opérateurs en place, mais plutôt de diversification vers l'international, vers les zones où la consommation électrique va être en forte augmentation.
Parce que Erneray, en effet, l'Asie du Sud-Est, très présent dans les pays émergents, l'Afrique, le Brésil, l'Argentine. Voilà, c'était un choix fait par Total.
Voilà, tout à fait. Et puis, comme vous l'avez rappelé, je trouve ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un grand groupe pétrolier, mais qui se conduit un peu comme un nouvel entrant dans le secteur de l'électricité, avec évidemment l'assise financière que permet la taille d'un tel groupe. Donc, voilà, je pense qu'il va se passer pas mal de choses dans les prochaines années. Et je crois que c'est simplement aussi le reflet de ce qui se passe au niveau international. Et je crois qu'il faut garder en tête que beaucoup de grands énergéticiens conventionnels font aujourd'hui le pas vers les énergies renouvelables, pour des raisons essentiellement de compétitivité, en fait.
Et c'est facile d'être un nouvel entrant, quand on s'appelle Total, sur ce secteur des énergies renouvelables ?
Écoutez, ils ont fait quelques opérations, je dirais, assez stratégiques. Ils ont racheté Lampiris aussi, en Belgique, qui fournit déjà aujourd'hui des clients sur le secteur électrique en France. Donc je pense que voilà, on verra ce qu'ils seront capables de faire comme type d'offre. Je crois que ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que la création de valeur se déplace en fait vers l'offre finale, vers le client. Donc il va falloir être capable de déployer de nouveaux types de contrats, de nouvelles offres. On a des nouvelles tendances qui se développent, l'autoconsommation, ça veut dire qu'il y aura de nouveaux besoins et donc un nouvel accompagnement aussi contractuel. Donc on va voir ce que ce type d'acteur là pourra offrir, notamment aux consommateurs que nous sommes tous.
Concrètement, qu'est-ce qu'il pourrait apporter ? Qu'est-ce qu'il pourrait offrir comme nouvelles prestations, nouveaux contrats ?
Je pense que maintenant, les énergies renouvelables vont devenir tellement peu chères que, en tout cas dans le secteur de l'électricité, finalement, ce qui va faire la valeur, c'est le service qui va autour. c'est l'accompagnement en termes de services d'efficacité énergétique, en termes d'accompagnement sur peut-être la vente de surplus si on autoconsomme sur le marché, l'accompagnement sur le déplacement de consommation au cours de la journée, donc tant pour le secteur d'ailleurs résidentiel que pour le secteur industriel et commercial. Donc je pense que c'est autour de ce type d'activité-là que la valeur va se créer, à mon avis.
J'en viens vers vous, Xavier Caïtu-Colli. Jean-Louis Butret, président de la Fédération Environnement Durable.
Alors d'abord, la Fédération Environnement Durable, on regroupe plus de 1000 associations en France qui luttent contre l'éolien industriel. Je voudrais dire qu'on n'est pas contre les énergies renouvelables, loin de là. Et lorsque Total investit dans le solaire et qu'on sait que le solaire va pouvoir progresser, qu'en plus, visiblement, Total a pour objectif plutôt l'international, je me dis pourquoi pas, au contraire, c'est de l'industrie française qu'on est en train de développer. Et ce que j'espère, c'est que ça soit des technologies françaises, c'est-à-dire que on va faire prendre des recherches, on va faire du développement, ensuite on va investir à l'étranger. Je crois que c'est très positif. Donc là, de ce côté-là, en plus, le solaire peut faire beaucoup de progrès.
Et il en fait déjà beaucoup.
Par contre, quand on mélange tout un tas de choses, et je pense à ces braves éoliennes qu'on voit, qui sont quand même des machines qui font maintenant 180, voire 200 mètres de haut, et qu'on est en train d'infester la France, on en a 7000. Et le projet, c'est peut-être d'en mettre 15 à 20 000 nouvelles. Là, on dit c'est complètement stupide. Pourquoi ? Parce que, un, on n'a aucune technologie. Toutes les éoliennes qui viennent sur la France, il faut savoir que ça vient du Danemark, ça vient d'Allemagne. On fait tourner des usines dans ces pays. Or, ça, c'est pas du développement, c'est du suivre des choses qui se sont passées ailleurs.
Bon, pourquoi pas en même temps, s'ils les fabriquent bien et s'ils les...
Les fabricants français qui faisaient de l'éolien, ils ont tous fait faillite. Areva a fait faillite. La Francéol, qui fabriquait simplement des bas, est en liquidation, et Vernier aussi. Donc non, quand on part 20 ans après les autres, on n'a pas d'espoir. C'est pour ça que je sépare bien ce que fait Total, et je souhaite du succès à Total dans le domaine, je vous dis, de développement. Et par contre, actuellement, vouloir continuer à infester la France d'éoliennes. Alors je voudrais juste corriger deux petites choses quand même qui m'ont frappé.
Côté dit par qui ? Mathieu Pecheberti.
Quand vous dites, je ne veux pas parler du nucléaire, mais quand vous dites 5 gigawatts, c'est l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires, non, c'est totalement inexact. Pourquoi ? Parce qu'un réacteur nucléaire ou une centrale thermique, d'Engie, peut travailler 100% du temps. Or, le rendement de l'éolien, c'est dû au vent, c'est 24% du temps. Donc, c'est 4 fois moins. Donc, c'est pas 5. Il faut ramener à 1 et 2, et en plus... Alors, les énergies renouvelables, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un vrai problème. C'est que c'est intermittent par rapport aux autres. Et tant qu'on ne sait pas stocker, et c'est pour ça que j'espère que Total va se lancer dans les recherches de stockage d'électricité. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Tant qu'on ne sait pas stocker cette électricité, on a un vrai problème. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il faut subventionner, c'est ce qu'on fait actuellement en France, on subventionne les éoliennes fabriqué en Allemagne, et tous les Français, il faut qu'ils sachent, sont en train aujourd'hui de payer ces subventions à travers leurs factures d'électricité, et c'est de l'ordre aujourd'hui de 20%. Et plus on met d'éoliennes, plus on fait monter la facture, et ça va monter à 100%. Et ça, les Français peuvent plus. Donc alors, voilà un petit peu ma proposition.
Alors, avant de revenir sur Total, on va répondre à Jean-Louis Butret. Donc, premièrement, on fait travailler les Allemands et les Danois, donc au détriment de notre bonne vieille industrie française. Xavier Caïtu-Colli.
Oui, moi ça me choque pas qu'on fasse travailler des acteurs européens en investissant en France. Et au contraire, si on bâtit l'Europe et si on y croit, c'est pour ça. Et je voudrais pas qu'il y ait de malentendu. Ce que vous dites, Jean-Louis Butret, est tout à fait vrai. Il ne faut pas comparer un gigawatt d'éolien à un gigawatt nucléaire. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer les prix seulement. On ne peut pas comparer les intermittences seulement. Mais d'où l'intérêt d'une diversité du mix. Et quand vous dites, Jean-Louis Butret, que les éoliennes infestent le territoire, vous sous-entendez que c'est une pollution et que c'est bien à l'étranger, mais qu'il faudrait pas en faire en France. Moi, je crois qu'on a besoin de cette diversité. Et je suis peut-être déformé par ma formation d'ingénieur, mais j'aime les éoliennes. Je trouve ça beau. Et je pense qu'aujourd'hui... Non, mais c'est vrai, je trouve ça majestueux, je trouve ça beau. C'est une belle manière qu'a l'homme de domestiquer l'environnement et de produire de l'énergie à partir du vent et de son territoire. Et je pense qu'on a aujourd'hui les mêmes oppositions à l'éolienne qu'on avait peut-être il y a quelques siècles contre les implantations de moulins. Aujourd'hui, on restaure des moulins. Je pense que nos descendants seront heureux de voir des éoliennes. Et moi, je trouve ça très bien.
Alors, Mathieu Pechberti, Alexandre, non, pour prend la parole. Oui.
La petite anecdote.
Les pros et anti-moulins, allez-y.
Faut se rappeler, c'est marrant cet exemple, qu'au 19e siècle, il y avait environ 20 000 moulins en France. Bon, personne ne s'en est jamais plaint. Passons ceci. Non, sur les prix, et c'est ce que vous dites est évidemment intéressant. Ce qu'il faut quand même dire à ceux qui nous écoutent, parce que c'est des sujets qui sont complexes, c'est que... il y a vraiment ce qu'on appelle un effet ciseau. Il y a des courbes qui se croisent depuis quelques années de manière très forte. C'est-à-dire le prix du nucléaire qui est très bas aujourd'hui dans les centrales qui ont été construites il y a 40 ans, le prix du nucléaire qu'on construit aujourd'hui est extrêmement élevé. Et aujourd'hui est deux fois plus élevé qu'une éolienne ou qu'un panneau solaire qu'on fabrique aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que pour des raisons de sûreté notamment, et puis pour des raisons de baisse des coûts dans le solaire et dans l'éolien, on a des prix qui ne vont cesser d'augmenter dans le nucléaire et qui ne vont cesser de diminuer dans les énergies renouvelables, à tel point que les opérateurs savent très bien que dans peut-être 10 ou 20 ans, ces énergies ne coûteront plus rien à fabriquer. Il faudra d'ailleurs vendre autre chose. On parlait des services tout à l'heure. Donc il y a quand même, même si effectivement il y a cette intermittence qui existe et qui est bel et bien réelle, pas plus tard que ce matin, des dirigeants d'EDF nous parlaient de modularité des centrales nucléaires et qu'ils pouvaient baisser la production des centrales nucléaires justement pour éviter que ça leur coûte trop cher. Donc là, on marche un petit peu sur la tête. On a quand même une tendance, de toute façon, quand on voit le discours qui ont eu lieu aujourd'hui à l'ONU des présidents, même américains et français, on voit bien que de toute façon, l'histoire est en marche. Après, il faut évidemment regarder ce qui est écrit et les chiffres qui sont là, mais quand on voit des majors comme Total, comme Exxon, comme BP,
comme Statoil en Norvège, Eni en Italie, voilà, il y a des Saoudiens, en mer, des projets solaires, voilà, tout le monde s'y met.
L'Arabie Saoudite investir là-dedans, qu'on voit que des industriels investissent là-dedans, très franchement, c'est pas pour jeter l'argent par les fenêtres.
Hein. Alexandre Rush.
Oui, je voudrais réagir à ce qui a été dit sur l'absence de tissu industriel, parce que je pense pas que ce soit exact dans la mesure où aujourd'hui, la deuxième grande annonce, elle est peut-être passée un peu plus inaperçue, c'est qu'il a été confirmé qu'au Havre, il y a deux usines qui vont être construites pour les nacelles et les pales, pour équiper les sites éoliens offshore, donc par Siemens Gamesa. C'est de 750 emplois au Havre, dans une ville qui devra fermer, comme on le sait, sa centrale au charbon. Et je pense que le Premier ministre est particulièrement sensible
Edouard
à l'accompagnement
Philippe, l'ancien maire du Havre.
Dans ce territoire-là. Donc je pense que c'est au contraire un exemple.
L'éolien a créé 16 000 emplois en France.
16 000 emplois en France. Et les énergies renouvelables, je voulais le rappeler, c'est 100 000 emplois directs en France aujourd'hui. Toutes filières confondues. Ce qui m'amène aussi d'ailleurs à peut-être élargir un peu le débat, parce qu'on parle beaucoup de l'électricité. On a en effet des courbes de coûts, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, qui sont en train de se croiser. Et il faut aussi raisonner en termes de futurs cycles d'investissement. Quel que soit le futur du parc nucléaire français, et là il y aura des discussions je pense dans les prochains mois, c'est vrai qu'on a un nouveau cycle d'investissement qui va s'ouvrir. Et là je crois qu'il faudra raisonner en termes d'investissement décarboné. Qu'est-ce qui est compétitif, aller réellement sur les coûts pour peut-être positionner un petit peu le débat. Et je pense que les sources d'électricité renouvelable auront beaucoup de choses à faire valoir dans cette discussion. Et voilà. Et après, bon, on pourra discuter des aspects industriels un petit peu plus tard. Mais il y a, je crois, beaucoup de filières en fait françaises qui peuvent aussi être un véritable levier pour l'export.
Question qu'on se posera un petit peu plus tard. Il y a assez d'investissements justement dans cette filière qui accélère. Qui bat des records, on l'a vu en 2016, hein, c'était l'Agence internationale pour les énergies renouvelables qui parlait d'une année record dans le monde, hein, avec une croissance de 8,7% par rapport à 2015, ce qui porte la puissance totale des énergies vertes sur la planète à 2006 exactement, gigawatts. Alors pas 2006, réacteur nucléaire, je suis d'accord, enfin voilà. Bon, juste encore un mot, parce que vous avez parlé de grands pétroliers, Mathieu Pechberti. Total, il prend un coup d'avance sur ses concurrents aussi, Shell, BP, d'autres.
Il avance en même temps qu'eux, en fait. Mmh. C'est vraiment un mouvement d'ensemble de l'industrie. Hein. Encore une fois, Total, vous citiez Exxon, Shell, BP, tous voient bien que, de toute façon, le pétrole est quand même une énergie qui va disparaître dans les décennies, ou en tout cas dans peut-être un siècle ou deux, mais enfin bon, en tout cas dans les décennies, le fameux peak oil dont on parlait, on peine à le voir venir, mais il arrivera quand même. Et surtout, ça coûte de plus en plus cher. Ce qui est important dans les énergies renouvelables, c'est la baisse des coûts. Ouais. Tous les industriels regardent ça. il y a 5 ans, même des opérateurs peut-être comme Direct Energy se disaient ah, mais ça veut coûter encore très cher. Et non, mais qui s'attendait à ce que les coûts baissent aussi vite? Et aujourd'hui, les opérateurs s'attendent à ce qu'ils soient encore divisés par 2 ou par 3 dans les années à venir. Donc on a vraiment une tendance de fond. Le pétrole coûte cher, il faut aller plus loin, plus profond pour l'extraire. Donc le pétrole coûte cher à produire, le nucléaire coûte cher à produire, et les énergies renouvelables coûtent de moins en moins cher.
Là on annonce, pardon, Mathieu, combien ça coûte exactement l'énergie d'origine renouvelable? Ce que vous dites, bon, ça coûte de moins en moins cher, etc. Donnez-nous quelques exemples, justement, et par rapport au nucléaire également.
Les grands indicateurs de prix qu'on donne, hein, pour essayer d'avoir à peu près les idées claires en parlant mégawatts, donc c'est un mégawattheure, c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, le nucléaire, les centrales qu'on a construites il y a 30 ans maintenant, l'électricité produit autour de 40 euros. On va donner un chiffre d'ordre de grandeur, vous me contredirez. Aujourd'hui, les énergies éoliennes et le solaire, on est sur les nouvelles centrales aux alentours de 70-80. Les anciennes étaient beaucoup plus élevées, beaucoup, beaucoup plus élevées, et c'est pour ça qu'elles étaient subventionnées. Aujourd'hui, un réacteur nucléaire de nouvelle génération, ce qu'on construit aujourd'hui, ce qu'on va construire à Hinkley Point, on en a beaucoup parlé, ce qu'on essaye de construire, on va être autour de 100 euros.
Ouais.
Hein, et c'est pas 100 euros aujourd'hui, non. C'est 100 euros pendant 40 ans. L'éolienne qu'on construit aujourd'hui, elle va produire pendant 20 ans, mais dans 10 ans, celle qu'on construira dans 10 ans, elle coûtera encore moins cher. Donc vraiment, cette tendance, elle est incontestable.
Hein. Le soleil et le vent, alors vous n'aimez pas le vent, Jean-Louis Butteret,
en tout cas,
les éoliennes. Bon, très bien. Deviennent-ils compétitifs, comme le dit Mathieu Pecheberti? Oui, c'est vrai.
Je comprends pas. Quand on prend l'éolien offshore, qu'on construit 5 parcs ou qu'on veut construire 5 parcs et que ce courant est racheté plus de 220 euros le mégawattheure.
Ça date de 2010, ça c'était les projets qui avaient été montés en 2010.
Alors,
aujourd'hui en France,
le marché spot de l'électricité, à 30, c'est-à-dire à plus 5 fois moins, il y a un problème. Il faut savoir que toutes ces énergies renouvelables, c'est merveilleux, mais
les prix sont à 30, notamment parce
qu'il y a
des énergies renouvelables.
C'est subventionné depuis 2001 par un système. C'est-à-dire que ceux qui vendent de l'électricité la vendent à un prix garanti. Donc, pas de problème. Hein. Sur 15 ans, un seul client EDF, vendu 90 centimes d'euros le kilowattheure, c'est-à-dire quand même 2,5 fois le prix du nucléaire. Et garanti sur 15 ans et payé sur la facture d'électricité des Français. Alors, je voudrais revenir sur des chiffres. Parce que j'ai discuté il y a quelque temps avec les prédécesseurs de notre ami du CER.
Le syndicat des énergies renouvelables.
Antolini, Jean-Louis Ball. À l'époque où ils discutaient, ce n'était pas 3 000 emplois qu'ils proposaient en 2001 ou 2005 ou 2006. C'est 60 000. Je suis quand même frappé de la modestie de la création d'emplois. Ensuite, quand vous parlez d'EDF, je vous rappelle qu'EDF, c'est 138 000 emplois dans le monde. Donc, on n'est plus du tout à l'échelle. Donc, la question numéro un, c'est qu'est-ce qu'on fait avec EDF? Ça, c'est une vraie question. Et deuxièmement, si on veut faire du développement, s'il vous plaît, arrêtez de mettre des éoliennes sur la France, parce que contrairement à ce que vous dites, une éolienne c'est beau, je suis d'accord avec vous. 10 éoliennes, vous commencez à vous poser des problèmes. 100 éoliennes sur un parc naturel, non. Hein, l'éolien, c'est une industrialisation de la France. Et deuxièmement, ce que vous dites pas, c'est quand on met de l'éolien, c'est pas le nucléaire qui régule. C'est des centrales thermiques, c'est-à-dire deux, et ça c'est Engie qui le disait, hein. Deux, on investit ou on investira des centrales thermiques. Ce que vous avez dit. Puis trois, ce qu'on oublie, c'est qu'on est en train de les mettre partout. Alors, il y a des braves lignes électriques quand même, qu'il faut mettre, c'est-à-dire des lignes à haute tension. Et je vous rappelle un rapport européen d'Erdevé qui dit la chose suivante: pour connecter tout ce fatras actuellement qu'on est en train de mettre d'éolien sur l'Europe, c'est 700 milliards d'euros. Et je vous rappelle un ministre de l'époque, hein, donc qui a dit la chose suivante: c'est la France, il faut investir à peu près, j'ai bien à peu près 40 milliards d'euros de lignes électriques. Alors, si vous aimez les lignes électriques, moi, pas trop.
Alors,
beaucoup.
Xavier Caïd-Ducoly, Direct Énergie, Alexandre Rocher du syndicat des énergies renouvelables.
Oui, moi, je crois qu'en matière de production électrique, il faut pas opposer les technologies les unes aux autres. Ma grand-mère faisait déjà du risk management. Elle disait, on met pas tous ses œufs dans le même panier. En matière d'énergie électrique, c'est la même chose. On ne peut pas juste comparer le prix. Vous le disiez vous-même, un mégawatt éolien ne produit pas la même chose qu'un mégawatt nucléaire. Et donc, même si les courbes de prix peuvent se croiser, ce n'est pas tout. La France a besoin d'un mix politique diversifié. Moi, je ne suis pas choqué qu'il y ait des politiques publiques qui aient investi de manière très importante pour soutenir les énergies renouvelables. Ces soutiens sont d'ailleurs sur des pentes tout à fait décroissantes. C'est que d'année en année, les subventions que reçoivent les producteurs photovoltaïques et éoliens décroissent. Et ce mouvement est engagé. Et je crois vraiment qu'il faut être... très pragmatique et absolument pas dogmatique en matière de production électrique.
Alexandre Roche.
Oui, je voudrais aussi réagir là-dessus parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans la transition énergétique, vous pouvez regarder l'ensemble des technologies qui vont être bas carbone. Vraiment, je parle de toutes les technologies bas carbone. Elles sont toutes très capitalistiques. Donc, ce qu'attend un investisseur aujourd'hui, c'est d'avoir une visibilité sur le long terme. C'est pour ça qu'on a des dispositifs que vous expliquiez de rachat de l'électricité, qui sont d'ailleurs exactement les mêmes dispositifs qu'on utilise pour Hinkley Point, puisque c'est un rachat de l'électricité sur 35 ans, indexé sur l'inflation. C'est exactement le même type de dispositif, et c'est parce que les énergies renouvelables, comme le nucléaire, comme peut-être demain le captage, stockage de carbone, nécessitent des investissements capitalistiques. Après, sur le côté, est-ce que c'est beau ou pas, je crois que c'est même pas la peine de se lancer sur ce terrain-là parce que
personne
c'est
la réponse,
subjectif. Hein. Mais voilà, je voulais juste rappeler ça. Et alors, en effet, les chiffres que vous mentionniez de 200 euros, ce sont des chiffres qui sont déjà anciens, qui reflètent le coût des technologies en 2010-2011.
C'est bien ce qu'on va payer.
Et je crois qu'il faut regarder en termes de société, de décision publique, quels sont les outils qui ont porté leurs fruits. Et il est indéniable que le soutien public sur ces 10 dernières années a permis de baisser les prix de manière drastique, tant pour le solaire que pour l'éolien. Vous verrez les prochains appels d'offres qui vont sortir sur l'éolien, j'en suis sûr. On sera pas du tout à 200 euros, on sera bien en dessous. Et après, on peut comparer les dispositifs de soutien public ou de politique publique sur d'autres sources d'énergie qui ont été mis en place sur ces 40 ou 50 dernières années, on verra si encore une fois, on produit le même type d'efficacité sur la filière.
Un mot, Mathieu, puis on revient dans un instant.
Non,
Mathieu
Pechberti. On retombe inévitablement dans l'éternel débat en France entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Le thème de l'émission, c'est est-ce que c'est le pétrole qui va être remplacé par le vent et le soleil ? La réponse est oui, tout simplement, parce qu'on ne remplacera pas le pétrole par du nucléaire, on remplacera le pétrole par de l'électricité.
Total n'abandonne pas quand même son activité principale.
Non, rassurez-vous, ça va durer encore quelques décennies, je pense, tout va bien se passer. Non, mais c'est ça qui est important. Tous les sujets sur le climat dont on parle notamment aujourd'hui à l'ONU, c'est arrêter les énergies fossiles dans les décennies qui viennent, et sur les énergies décarbonées. Et de toute façon, le nucléaire et les énergies renouvelables sont décarbonées, donc on aura les deux. Le sujet, quand même, c'est la fin à terme des énergies fossiles et polluantes.
On se retrouve. Je vous redonne la parole dans un instant à tous. Hein. On verra d'ailleurs si justement, eh bien, quand on parle de transition énergétique, est-ce que cela passait forcément par les énergies renouvelables, un vaste débat également. Est-ce que les énergies renouvelables permettent justement de diminuer les effets de gaz à effet de serre? Là aussi, il y a peut-être des idées préconçues. On verra. On se pose la question dans un instant avec nos décodeurs de l'écho. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, les décodeurs de l'écho autour du secteur énergétique. Oui, avec ce coup double de Total qui met un pied dans l'éolien en mettant la main sur Erneray. Et puis également sur Greenflex, une acquisition plus modeste, hein, active dans l'efficacité énergétique. On voit que tout le monde s'y met, tout le monde accélère, et notamment Engie qui est déjà leader sur les marchés français du photovoltaïque, de l'éolien. Juste un mot sur Engie, tiens, Mathieu Pechberti est avec nous, spécialiste des questions énergétiques. C'est Madame Kocher, donc la patronne d'Engie, Isabelle Kocher, qui explique que Engie attaque les tarifs réglementés de l'électricité devant le Conseil d'État. Pour quelle raison fait-elle ça? Qu'est-ce qu'elle dit, Isabelle Kocher?
C'est le petit historique assez court, c'est que le Conseil d'État, il y a quelques mois, a fait sauter, entre guillemets, les tarifs réglementés du gaz, qui était surtout chez Engie, hein, l'ancien Gaz de France, pour faire simple. Et jusqu'ici, il y avait une sorte de pacte de non-agression entre EDF et Engie, à Engie le gaz, à EDF l'électricité. Donc, à partir du moment où les tarifs réglementés du gaz sautent, Engie, maintenant, va s'attaquer aux tarifs de l'électricité, donc attaque au Conseil d'État, pour que, à terme, alors ça va prendre très longtemps, ces tarifs bleus, ces tarifs réglementés de l'électricité sautent.
Et quand on est le président fondateur de Direct Énergie, Xavier Calitucoli, troisième fournisseur d'électricité et de gaz en France, on applaudit justement cette décision, cette volonté d'Isabelle Kocher, justement, de s'attaquer aux
tarifs réglementés. Oui, on en sourit.
C'est bon
pour
vous ?
On l'applaudit, on en sourit un peu. On a en France des superbes entreprises publiques, ou anciennement publiques, en tout cas pour Engie et pour EDF, qui sont des très beaux monopoles, qui ont très bien fait historique, et des très belles entreprises industrielles, mais qui, en matière de tarifs réglementés, et là, on voit un petit jeu de dupe, nous, on connaît bien le sujet, puisque c'est nous qui avons contesté les fournisseurs alternatifs, on est le troisième, d'ailleurs, des FNJ, les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité, c'est suite à une action que nous avons entamée que les tarifs du gaz ont été supprimés. Engie était défavorable à la suppression des tarifs du gaz et surtout favorable à la suppression des tarifs de l'électricité. Ça veut dire au final que c'était bien les tarifs qui protégeaient en fait les monopoles et pas les consommateurs. Nous protégeons les consommateurs et les clients, et donc nous pensons effectivement que la vraie transparence, elle apparaîtra quand les tarifs réglementés, qui sont faussement protecteurs pour les consommateurs, qui donnent une illusion de protection pour les consommateurs, auront disparu. Tout le monde va s'aligner sur le sujet. On en est très satisfait.
Bon, Xavier Caillet-Tucoli, à la tête de Direct Énergie. On parle des énergies renouvelables. Hein. La grosse affaire du mois de juin, pour vous, c'était le rachat du producteur d'énergie renouvelable Quadran pour 300 millions d'euros. Venir dans les énergies renouvelables, c'était quelque chose qui vous turlupinait un petit peu, qui vous démangeait depuis quelques années ou pas ?
C'était inscrit dans nos gènes, ouais. Dans notre ADN, si je puis dire. Quand on est un fournisseur qui a une vocation d'être implanté durablement sur dans le secteur électrique européen, on ne peut pas faire l'impasse sur aucune technologie qu'elle soit. Et donc, l'arrivée dans les énergies renouvelables était nécessaire.
Quadran,
c'est au moment où on se parle à peu près 500 mégawatts de production, deux tiers d'éolien, un tiers de photovoltaïque. Ça sera plus de 800 mégawatts à horizon fin 2018. Et c'est des centaines de millions d'euros chaque année qui vont être investis dans le développement des énergies renouvelables. Et au final, pourquoi on fait ça ? On fait ça pour nos clients. Ça donne à nos collaborateurs un sentiment de fierté importante de se dire on participe à cette transformation du secteur électrique. Et ça, c'est important, parce que nos collaborateurs, c'est eux qui font vivre la boutique et qui, au final, rendent un bon service à nos clients. Mais nos clients sont demandeurs de ça. Ils sont fiers d'avoir un fournisseur qui contribue au système électrique et à son évolution.
Et vis-à-vis de ces clients, qu'est-ce que vous allez leur proposer comme offre ? C'est ce que nous disait tout à l'heure Alexandre Roche, qui représente le syndicat des énergies renouvelables, en disant, voilà, il va y avoir une fourniture d'énergie et ça va s'accompagner de plus en plus de services. À quoi vous pensez, vous ?
Je pense qu'en fait, le titre de ce soir est un petit peu limité.
Soleil et vent triomphent.
Il manque une petite dimension.
Ouais, c'est quoi ?
C'est que je pense que le soleil et le vent vont triompher, mais pas seuls. Il y a d'autres choses qui vont... Le consommateur va aider à pallier l'intermittence des renouvelables. Les consommateurs vont aider à pallier cette intermittence. Nous installons, par exemple,
Juste quand on parle d'intermittence, c'est vrai que... C'est vrai, voilà, il n'y a pas toujours du soleil,
il n'y a pas toujours
du vent, bien entendu.
Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité, point barre.
Et donc, quand il n'y a pas de vent...
Sauf que maintenant, on voit de plus en plus les réseaux de distribution qui se modernisent, des réseaux de distribution interconnectés. On accélère sur le stockage, sur l'efficacité énergétique, de plus en plus de digitalisation. Ça va pallier un peu cette intermittence ?
C'est justement là que je voulais arriver. Ouais. On a vécu, dans l'ancien monde, à une production qui s'adaptait en permanence à une consommation tout à fait aléatoire. Vous rentrez chez vous, vous allumez un halogène, un four, un fer à repasser, quelque part, une centrale thermique ou nucléaire devait accélérer pour, en temps réel, répondre à votre demande. Aujourd'hui, le système électrique comporte une part de plus importante de moyens de production dont on ne maîtrise pas la production. Quand il y a du vent, quand il y a du soleil. Et donc, le nouveau système électrique, il va aller piloter ce qui se passe chez le client final pour qu'il pallie et qu'il baisse sa demande d'électricité au moment où on peut moins en produire. Et donc, c'est ce type de service innovant, sur lesquels nous sommes d'ailleurs en pointe chez Direct Energy, que nous allons installer chez nos clients et qui vont permettre au système électrique de devenir intelligent et aux consommateurs de pallier l'intermittence du renouvelable.
Alors, Mathieu Pechberti, Alexandre Roche et Jean-Louis Butrec, vous avez entendu.
Mais c'est vrai qu'on est dans un monde qui est vraiment en train de changer. Vous voyez, par exemple, ce qui se passe dans le monde de l'électricité, un mot un peu barbare qui s'appelle l'effacement. En gros, il y a des entreprises aujourd'hui qui se font payer pour arrêter de produire et surtout de consommer l'électricité pendant 10 minutes, une demi-heure. Voilà. On en a un petit peu parlé en début d'année quand il y a eu la grande vague de froid qui a menacé la France. Et de la même manière que vous avez des assureurs qui vous payent ou en tout cas qui baissent votre prime d'assurance quand vous ne conduisez pas. Donc c'est une manière de raisonner qui est totalement différente. On change de logiciel, donc il y a des entreprises les anciens monopoles, par exemple, qui ont du mal à s'y adapter parce qu'ils viennent d'un monde qui est en train, petit à petit, ça va pas prendre quelques années, ça va prendre des décennies, mais qui est en train de changer. Donc c'est vraiment ce mode de raisonnement-là qui fait dire effectivement que aujourd'hui on passe des moyens de production qui faisaient la loi, on va dire, sur le marché, à des, aujourd'hui c'est le consommateur qui va faire la loi.
Alexandre Roche.
Oui, je voulais peut-être juste rajouter que nous on considère que les énergies, certaines énergies comme le vent et le solaire sont variables d'abord et non pas totalement intermittentes. Mais surtout,
dans les énergies renouvelables, juste qu'on se rende compte aussi d'un chiffre, le solaire a dépassé pour la première fois l'éolien il y a 3-4 ans hein, aussi. Hein.
En termes de capacité installée,
oui, bien sûr. De plus en plus de capacité installée.
Oui, en termes de capacité installée annuelle, tout à fait. En France, la capacité éolienne reste supérieure à la capacité solaire.
Solaire, bien entendu, en France.
Mais c'est vrai qu'il faut, elles sont variables, mais elles sont prévisibles. Hein. Je veux dire, la prévisibilité reste très importante. On a beaucoup progressé sur la prévisibilité tant de l'éolien que du solaire. Et ensuite, je pense qu'en effet, comme le disaient mes collègues, il faut raisonner en termes de système. Il y a un foisonnement, il y a une grosse capacité hydroélectrique en France aujourd'hui, on a 20 gigas d'hydro. Historiquement, cette capacité est utilisée pour de l'optimisation du système ou des signaux de prix de marché, mais là, on peut utiliser cet acquis qu'il faut maintenir pour permettre une montée en puissance des énergies variables. Et donc, on a déjà cette base-là qui existe sur le territoire français.
Jean-Louis Butret.
Et moi, je tiens le pari, on va vers le blackout actuellement avec ces méthodes. Pourquoi ? Parce qu'on a un système électrique, on ne sait pas où on va. Je vous rappelle que 80% de notre système électrique est dépendant en effet du nucléaire ou du thermique ou de l'hydraulique. Et actuellement, on est en train de mettre un système qui est en train de flanquer le bazar. Et tant qu'on ne saura pas stocker l'électricité, tout ça, on amuse les gens. C'est du marketing hein, dont vous parlez. Ce qu'il faut, c'est peut-être, par contre, quand on a justement la chance d'avoir un système qui produit l'électricité actuellement, utiliser tous nos moyens pour faire de la recherche, du développement, par exemple sur le stockage. Et si Total mettait tous ses moyens dans la recherche des matériaux, dans la recherche des batteries, parce que là aussi ça pose des problèmes ou d'autres procédés, et voulait faire des nouveaux procédés pour se battre sur le marché international, on serait d'accord. Aller bricoler, mettre des lignes électriques, des compteurs ligne 6, dire non, vous baissez votre machine à laver, puis non, vous... Non, attendez, on rigole actuellement. On rigole.
Xavier Tucoli, blackout ou pas à venir ?
Non,
le
blackout.
Train, Jean-Louis Butret ?
Non, je ne crois pas que
on
le blackout...
On a failli passer l'année dernière. On est passé au rat. Bah, et c'est les centrales,
oui, c'est vrai,
les centrales hydrauliques.
Vous en parlez,
c'est les centrales hydrauliques qui ont sauvé la France.
C'est une situation très particulière.
C'est grave,
là, c'est le chauffage au bois qui a sauvé le pic
hiver, faut pas
contre
qu'il
le pic l'hiver dernier. C'est le chauffage au bois qui nous a sauvé du pic thermique.
Non, c'est les centrales hydrauliques.
Électrique qui est très dépendant.
On le suivait seconde par seconde.
Ce sont les renouvelables.
Dedans,
oui. Secteur de la chaleur.
Oui, non, moi, alors un mot pour finir. Moi, je crois que effectivement, il faut investir dans le stockage, il faut investir dans ce qui va permettre
à ce
système électrique de s'intégrer. Mais nous, on est un énergéticien du 21e siècle et fondamentalement, je crois au progrès et je crois que les problèmes qu'on peut avoir par un progrès nouveau seront résolus par un progrès suivant. Et ainsi, je suis un optimiste et j'y
arrêtez
crois.
D'embêter
est-ce que,
les Français.
Est-ce que c'est la panacée avez... Est-ce que quand on parle de transition énergétique, on doit forcément penser en renouvelable. Est-ce qu'on pourra un jour produire 100% d'électricité renouvelable en France, par exemple ? Est-ce qu'on serait autosuffisant ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des idées toutes faites en se disant, bah finalement, les énergies renouvelables, c'est propre, ça facilite la sécurité de l'approvisionnement. Est-ce qu'on est bien sûr de tout ça ?
Est-ce que l'objectif sera du 100% renouvelable ? Est-ce qu'une batterie, c'est du renouvelable ? Comment ça se recycle ? Voilà, je sais pas. Je pense que ce qui est certain, c'est qu'il y aura une diversité.
Il faut la produire, la batterie. Aussi pour les véhicules électriques, ils sont pas aussi green que ça.
Voilà, l'équation écologique de la batterie, je la connais pas exactement sur la durée de vie et y compris son recyclage. Mais, je crois pas qu'il faille se dire 100% de renouvelable, mais il faut accepter la diversité d'un mix de production énergétique.
Est-ce qu'on investit suffisamment dans le renouvelable, à vos yeux, Alexandre Roche, vous qui êtes à la tête du syndicat des énergies renouvelables?
Oh, vous serez pas surpris de m'entendre dire que non, on n'est pas sur les trajectoires qui ont été définies par la loi de transition énergétique. Mais encore une fois, je pense que pour répondre à votre question, c'est pas vraiment la question du 100%, c'est la question de savoir qu'on est aujourd'hui sur une dynamique qui est intéressante, on a fait des progrès, baisse de coûts, les gestionnaires de réseaux de transport, pour revenir sur le point de l'intégration au réseau électrique, eux-mêmes ont acquis une réelle expérience au niveau européen des échanges entre les différents gestionnaires de réseau. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et je pense qu'il faut y aller par étapes avec un objectif de moyen terme, pas forcément tout de suite à parler de 100% renouvelable à l'horizon 2050, mais d'être peut-être plus dans l'opérationnel, d'aller sur des approches par étapes. Et je pense que les progrès technologiques ont montré que par une approche par étapes, on peut aller vers en effet un système qui sera fortement alimenté par les énergies renouvelables.
Jean-Louis Butteret et Mathieu Pechberti.
Je suis d'accord avec vous. Arrêtez simplement d'importer des machines qui viennent d'Allemagne, qui font travailler des usines allemandes, des éoliennes, et qui actuellement empoisonnent des millions de Français, parce qu'une machine de 180 mètres à 500 mètres d'une maison, c'est invivable.
Bon, il vous a dit, Alexandre Roche, qu'il y avait une implantation importante au Havre aujourd'hui.
Une annonce aujourd'hui, voilà, 750.
Pour fabriquer des pales, Mathieu.
Alors, quand on a en France, on fabrique 75% de notre électricité par le nucléaire, donc c'est effectivement, il ne faut pas dépendre autant d'une seule technologie, qui plus est, coûte de plus en plus cher. Et donc plus personne, voilà, il y a peu de pays qui font encore confiance à cette énergie. Après, 100% renouvelable, peut-être oui un jour, dans un monde parfait, avoir de l'électricité gratuite. Les plus optimistes reconnaissent que si on y arrive, ça sera pas avant 2100. Donc je ne serai pas si on sera encore là pour en parler. Mais en tout cas, il est évident qu'on a un handicap par rapport à ça en France et que de toute façon, il faut rappeler le thème de l'émission. On parle des énergies fossiles et du climat. Donc, on ne parle pas du nucléaire, on parle du pétrole et du gaz.
Du carboné, bien sûr. Juste, il y a trop de marketing quand même. Simplement, quand Total met la main sur ces entreprises, quand vous, Xavier Caïtu-Colli, chez Direct Energy, vous mettez la main sur Cadran, justement, il y a un petit peu de com' quand même, c'est bien de faire du green.
Non, je ne sais pas si vous dites que c'est de la com' ou du marketing, c'est de la préoccupation de nos clients, c'est ce que nos clients souhaitent. Et le client, il est au cœur de la préoccupation d'entreprises du 21e siècle comme nous.
Mathieu ?
Ce qui est important, c'est que le monde financier, les banques, les grands investisseurs internationaux, les grands fonds d'investissement, souhaitent investir dedans. Donc je ne sais pas si c'est de la com', mais en tout cas, il y a des moments où il y a des financements. EDF a eu tous les mals du monde, tous les maux du monde à financer ses réacteurs nucléaires en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, toutes les banques et les investisseurs donne de l'argent pour les énergies renouvelables.
C'est très bien. C'est une réalité. Merci à tous. Xavier Caïtu-Colli, le troisième distributeur français d'électricité et de gaz à la tête de Direct Energy. Alexandre Roche, le délégué général du syndicat des énergies renouvelables, celui qui fait pleuvoir des scoops, il a ses entrées partout. Mathieu Pechberti, rendez-vous dans les journaux de BFM Business. Et puis Jean-Louis Butteret, il n'aime pas les éoliennes, vous avez compris, spécialement les éoliennes allemandes. Hein. C'est le président de la Fédération de l'environnement durable. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. À très bientôt.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.